Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Dieu vous soit accordée. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous sommes dans la joie d'être à ta rencontre ce matin. Parle-nous à travers ce message. Au nom de Jésus-Christ, amen. Depuis le début de cette année, nous avons entrepris de parler de l'alliance avec Dieu. Et le Seigneur a voulu encore qu'en ce jour, nous puissions parler de l'un des avantages d'être en alliance avec Dieu. Et c'est pourquoi je vais vous inviter à faire avec moi la lecture de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu. Nous lirons le 14e chapitre à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Si vous avez trouvé, je vais conduire la lecture au nom de Jésus-Christ. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu et c'est la parole du Seigneur. Amen. » Avec ce passage que nous venons de lire, nous n'allons pas entrer dans beaucoup de détails. Seulement, nous aimerions noter ici l'importance de ce moment que Jésus vient de créer pour ses disciples lorsqu'il les envoie le précéder à l'autre rive. Au moment où il est en train de les envoyer, eux ignorent totalement qu'ils vont expérimenter quelque chose de formidable, quelque chose de grand. En fait, on peut remarquer, si on revient sur d'autres passages précédents, qu'il y a un autre miracle qui vient de se produire et on pourrait dire que les disciples sont encore sous le choc après ce qui vient de se passer. Il y a plus de 5000 hommes, plus de 5000 personnes qui viennent d'être nourries par Jésus-Christ avec seulement 5 pains et 2 poissons. Et au moment où ils continuent encore à réfléchir sur ce qui vient de se passer, il y a aussi ce miracle qui vient de se produire lorsque Jésus vient vers eux en marchant sur le lac. De ce passage, je voudrais que nous puissions tirer quelques éléments, quelques leçons qui pourront nous aider peut-être à saisir, ne serait-ce qu'un message que le Seigneur voudrait nous communiquer ce matin. La première chose, c'est ce que nous pouvons lire au verset 24-25. La Bible déclare que la barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. Et à la fin de la nuit, Jésus va vers eux en marchant sur le lac. Alléluia. Jésus, il est notre secours. C'est la chose que nous pouvons apprendre de ce passage ici. Quand le vent devient contraire, lorsque au milieu de grandes eaux, tout semble noir, tout semble désespéré, c'est Jésus qui vient nous apporter le vrai secours dont nous avons besoin. Être au milieu du lac, expérimentant les vagues, c'est une expérience qu'on ne voudrait pas surtout vivre si on ne l'a pas encore vécue. Ceux qui ont déjà fait cette expérience, ils savent l'impression que ça donne de se sentir au milieu de nulle part, en train d'être frappé par les vagues. La peur que vous sentez peut s'exprimer de plusieurs façons et peut vous laisser même faire ce que vous n'aviez peut-être pas envie de faire. Il est possible qu'à cause des vagues, vous puissiez vous retrouver à l'endroit où vous ne vous rendez pas, parce que les vagues, le vent, peut facilement vous apporter en dehors de votre destination. C'est en fait le chaos. Et des moments comme ça dans la vie, ça se produit. Des moments où nous avons l'impression d'être nulle part. Des moments où tout semble marcher différemment de ce que nous envisagions. Des moments où tout semble même marcher contre nous. Des moments vraiment difficiles où nous ne pouvons plus rien comprendre. Et même si on pouvait nous expliquer, ce sont des moments où, à cause de la peur ou des sentiments, des émotions que nous sentons, nous n'avons même pas la possibilité de comprendre. Ces moments, je sais que si on devrait demander à chacun d'en parler, des moments difficiles, au moins chaque personne pourrait avoir un témoignage. Ce sont des moments où vous avez l'impression que c'est fini. Quand vous regardez de gauche à droite, vous ne voyez nulle part où vous pourriez avoir votre secours. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais venir vous rappeler que pendant ces moments où vous avez l'impression que c'est fini, tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, alors ce n'est pas encore fini. Amen. Qu'importe ce qui peut vous arriver, qu'importe les difficultés que vous pouvez être en train de traverser, ce ne sont que des virgules. Des virgules parce que Dieu n'a pas encore placé le point final. Amen. Hein? Et donc, nous devrions nous sentir apaisés parce que nous avons le secours qui sait venir au moment opportun. Ce n'est pas le secours comme c'est que nous avons expérimenté, où vous pouvez appeler quelqu'un ou des gens pour venir vous secourir, vous les appelez à 19h et ils arrivent demain à 8h. Ce n'est pas ce genre de secours. C'est le secours qui vient au moment où nous avons exactement besoin de ça. En fait, c'est là où d'ailleurs l'alliance avec Dieu devient très intéressante, parce que lorsque Dieu est en alliance avec vous, il est fidèle par rapport à ce qu'il a comme obligation à votre égard. Vous voyez, quand Jésus il envoie ses disciples, il ne va pas avec eux. Il les envoie, mais il est en train de les suivre en même temps. Parce qu'il sait, au moment où l'accident, où l'incident s'est produit, même sans que les disciples aient envoyé un SOS, même sans qu'ils aient fait appel à Jésus, il est déjà là au moment où ils ont besoin de lui. Et c'est ce qui est intéressant lorsque nous sommes en alliance avec Dieu. Peu importe ce qui peut nous arriver, le Seigneur, il se soucie de notre bien-être. Il est disposé à mettre les gros moyens pour que nous puissions nous sentir en sécurité. Vous savez, Jésus, facilement, il pouvait ordonner aux vagues de cesser, même de loin. Mais pourquoi il est allé jusqu'à marcher sur le lac, aller vers les disciples? En fait, quelque chose qu'on peut comprendre ici, c'est que il voulait que les disciples sachent que c'est lui en qui ils ont cru. Il a un pouvoir qui n'est pas limité par les formules et les lois mathématiques et physiques. Amen. Il avait la possibilité d'ordonner le lac de se calmer, mais il a voulu marcher sur le lac pour que les disciples sachent que c'est lui en qui ils ont cru. Il défie aussi les créatures qu'il a lui-même créées. Cela signifie donc que lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, lorsque nous avons Jésus, nous ne devons pas nous laisser troubler. Et ce matin, je voudrais prier pour chacun de nous pour que nous ayons conscience de ce que avoir Jésus représente dans notre vie. Quand tout semblera noir dans notre vie, quand au milieu de nulle part nous aurons l'impression que c'est fini, que le Seigneur nous rappelle ce que sa présence représente dans notre vie. La deuxième chose ou le deuxième élément que nous pouvons tirer de ce passage, c'est au verset 26 et 27. Il est écrit que quand les disciples virent Jésus marcher sur les lacs, ils furent affolés et ils dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et papa, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Quand Dieu vient nous sauver, il ne vient pas toujours de la même manière que nous l'attendons. Amen. Ceci nous rappelle encore la tendance que nous avons toujours à avoir l'impression d'avoir déjà compris Dieu. C'est-à-dire, nous voulons formuler nos prières et donner aussi le mode d'action à Dieu. Nous voulons formuler nos requêtes et nous-mêmes nous envisageons déjà, bon voilà, il faudrait qu'il agisse de cette manière. Et c'est comme ça que lorsqu'il va se présenter, notre impression pourrait être celui ou celle de voir un fantôme, alors que c'est Jésus qui vient à notre secours. Alléluia. Jésus ou Dieu, nous ne pouvons pas le comprendre. Nous ne pouvons même pas prétendre le comprendre. Parce qu'au moment où nous pouvons l'attendre venir du nord, c'est là qu'il peut venir de l'est. Au moment où nous pouvons attendre qu'il vienne du sud, il peut venir de l'ouest. Nous ne pouvons pas, dans notre imagination, dans notre connaissance, limiter le Seigneur. Et c'est là notre plus grand problème, parce que nous voulons définir la façon d'agir de Dieu. Au lieu de demander que seule sa volonté soit faite, nous voulons lui tracer un mode d'action. Vous voyez, quand un jeune homme, lorsqu'il veut se marier, lorsqu'il cherche une fiancée, généralement, quand il formule ses prières, c'est parce qu'il a déjà trouvé une cible quelconque. Vous pouvez remarquer ça facilement. Quand il commence à prier, il dit, bon, je voudrais prier pour... C'est parce qu'il a déjà vu. Et donc, dans ses prières, il va commencer à décrire en fonction de sa cible. Imaginez que la réponse de Dieu soit pas exactement ce que l'homme est en train de demander. Nous prions comme si nous avons déjà un plan que nous voulons faire approuver auprès de Dieu. Et pourtant, il y a ce que Dieu lui a pour nous. Et c'est ce que nous devrions demander. Très souvent, il est difficile pour nous alors de discerner la réponse de Dieu à nos prières, puisque nous nous sommes focalisés sur ce qui est de notre pensée. Et c'est dans ce sens-là que nous n'arrivons pas à saisir ou à voir la réponse de Dieu lorsque il nous répond. Nous pouvons rester en train de prier alors que Dieu a déjà répondu. Mais parce que nous sommes focalisés sur autre chose que ce que nous attendons de Dieu, alors la réponse, elle passe. Je prie que le Seigneur ouvre nos yeux ce matin pour que toute la fois que nous serions en train de formuler nos requêtes, nos prières, que nous soyons aussi capables de voir sa réponse. Amen. C'est lui notre secours. Et s'il doit venir, il ne faudrait pas que nous puissions le voir comme un fantôme. Vous savez ce qu'un fantôme? Une personne qui est déjà morte et qui apparaît. C'est ça un fantôme. Et donc, lorsque les disciples voient Jésus comme un fantôme, il faut comprendre ce que ça signifie. Lorsque la Bible dit clairement qu'ils ont crié, ils ont poussé des cris. Vous savez, il y a différentes façons de pousser des cris. Lorsque nous sommes dans la joie, il y a des moments où la chorale nous anime ici et dit, poussons des cris vers le Seigneur. C'est bon, on pousse des cris. Il n'y a rien de mal, c'est bon. C'est dans la joie. Il peut arriver aussi que quelqu'un pousse des cris parce qu'il est étonné. Peut-être qu'il vient d'apprendre une nouvelle qui semble surprenante. Il peut aussi pousser un cri. Mais dans le cas précis du moment où vous avez peur, pousser le cri semble être un des derniers niveaux d'expression de votre peur. Encore là, il faut que l'on se demande si vous l'avez poussé dans quelle langue maternelle. S'il est possible que chacun sache comment il pourrait le faire. Et de plus fortes raisons, des hommes adultes, des papas, qui arrivent au niveau de pousser des cris. Vous imaginez? C'était sérieux. Ils ont eu vraiment peur. Et c'était grave. Des moments où vous arrivez à pousser des cris, vous pouvez être dans votre cachette, vous avez eu peur de quelque chose, jusque-là vous n'avez pas encore réagi. Et s'il arrive que la chose dont vous avez peur vous rencontre dans la cachette où vous êtes, c'est là que vous poussez des cris. Et puis il peut arriver aussi que le corps aussi réagisse par rapport à votre peur. Et c'est à ce moment-là que Jésus vient nous dire, ne crains rien, n'aie pas peur. Je suis Jésus, je suis avec toi. Le Seigneur, il nous connaît. Il sait de quoi nous avons besoin. Comme Matthieu 6, 31 le dit, nous ne devrions pas nous inquiéter, nous ne devrions pas nous poser des questions, parce que certaines questions appartiennent aux païens. Mais si nous savons et croyons que nous avons un Dieu, un Père qui sait de quoi nous avons besoin, qui sait s'occuper de nous, alors nous devrions rester calmes. Amen. Ce n'est pas aussi facile d'être en paix, d'être calme lorsque il y a des choses qui vous font peur. Ce n'est pas aussi facile. Mais c'est vraiment ce dont nous avons besoin. Lorsque nous sommes dans la peur. Parce que nous devrions simplement savoir que notre Dieu, il connaît ce dont nous avons besoin. Il sait même nos peurs du lendemain. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain, mais Dieu, il sait déjà ce dont nous aurons peur demain. Vous voyez que c'est merveilleux, c'est Dieu. Demain, sans que demain arrive, sans que nous ne le voyons encore, lui, il sait déjà où il y a Taogo Paikinaik. Il va se poser des questions sur ça. Il sait déjà. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il a déjà prévu une voie pour que tu ne restes pas dans cet état dans lequel tu es. Je prie que désormais, dans tes prières, lorsque tu seras en train d'attendre le secours de Dieu, que tu ne sois pas en train de le limiter. Amen. Que tu sois capable de le voir au-delà de ton imagination. Laisse Dieu te secourir de la manière dont lui-même juge bonne de venir en aide pour toi. Ne cherche pas à le limiter au risque de le voir comme un fantôme lorsqu'il va venir vers toi. Que la réponse aussi qu'il va t'accorder soit un amen dans ta vie, au point d'apaiser tes souffrances, au point d'apaiser tes préoccupations. Même si c'est contraire à ce à quoi tu t'attendais, que le Seigneur t'aide à ne pas douter, que tu ne le remettes pas en doute, que tu n'essaies pas même de le mettre en épreuve. Vous savez, ça nous arrive aussi parfois lorsque nous voulons prier. Et non, que si cette situation jusqu'à demain, ça ne change pas, que si cette année, alors, non, ça peut prendre même plus longtemps que ce que tu attendais. Ça peut même ne pas marcher et tu vas mourir. Mais Dieu va rester Dieu. Amen. Il y a des choses, parfois, nous voulons donner des dates limites à Dieu lorsque nous sommes en train de prier. Nous voulons lui fixer des délais. 2025, Isipite. 2025, Nimwakayang. Bonana 2024, Ilipita. Et qu'est-ce qui te dit que na 2025, Haïta Pita? Et Dieu va continuer à rester Dieu. Amen. Kuomba Mungu, ce n'est pas lui imposer ce que nous avons, c'est lui demander d'accomplir sa volonté. Amen. Tout ce que nous demandons, que ce soit dans nos prières, dans nos requêtes, n'est pas forcément ou nécessairement conforme à la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi il faut savoir qu'à certains moments, la réponse de Dieu soit négative. Nous avons demandé ceci et le Seigneur dit non. Mais est-ce que nous sommes capables de discerner cette réponse, d'accepter que, en certains moments, le Seigneur nous dise non? Si vous avez un enfant de 10 ans ou moins, et qu'il cherche à prendre le volant de votre véhicule, il veut le conduire, vous allez le lui accorder comme ça. Hein? Pour ceux qui ont un véhicule, vous pouvez ne pas répondre parce que peut-être vous voulez, bon, je vais accorder quoi? Est-ce que vous pouvez accorder à un enfant de 10 ans de conduire un véhicule? Et lorsque vous refusez, est-ce que c'est parce que vous ne l'aimez pas? Non, vous l'aimez, mais seulement vous voulez le préserver, vous voulez le protéger, vous voulez qu'au moment où il pourra conduire, qu'il soit aussi conscient de ce que cela implique de conduire un véhicule. Qu'il ne le conduise pas seulement pour le faire. Et Dieu aussi, parfois, il nous voit comme ça. Permettez que je dise immature. Il voit qu'à un certain moment, nous ne sommes pas encore prêts à accéder à certaines choses. Nous pouvons beau les demander. Mais Dieu, il voit que non, ce n'est pas encore le moment. Même si nous pouvons gêner, prier, solliciter de quelque manière que ce soit, Dieu s'est dit non. Il voit pourquoi nous demandons. Vous voyez quelqu'un, par exemple, qui demande, quelqu'un peut demander et gêner pour avoir un véhicule, simplement parce qu'il a vu une autre personne en avoir, alors qu'il pensait que cette personne est moins nantie que lui. Vous voyez? Il y a des gens comme ça. Quand ils voient, tu viens avec, ils disent, ah, comment celui-ci a véhicule avant moi? Non, Seigneur, il faut que tu me donnes aussi véhicule. Cette année, je dois avoir véhicule. Bon, est-ce que ça, c'est vraiment une bonne raison d'avoir véhicule? Parce que quand la personne va changer, peut-être qu'il aura Actros. Toi aussi, tu vas chercher à avoir Actros. Dieu, il peut te dire non. Mais il y a aussi des possibilités que Dieu accède à certaines de nos prières, tout comme il a fait avec Pierre. Simplement parce qu'il veut aussi nous corriger, parce qu'il veut nous amener à comprendre qu'il a besoin que nous soyons patients, qu'il nous façonne d'abord. Pierre, il tenait à marcher sur l'eau. C'était comme si pour lui, c'était un pari. Bon, kamawe tu koyes, nami esem. Vous voyez? Et ça nous arrive de chercher parfois des choses comme ça, coûte que coûte. Et cela peut arriver, mais ça ne va pas durer comme ça devrait l'être au moment où nous sommes déjà prêts pour l'obtenir. Lorsque nous avons appris ici l'alliance avec Dieu, nous avons compris que lorsqu'il réalise des grandes choses, des merveilles dans notre vie, en fait, c'est pour que lui-même se glorifie à travers ça. Ce n'est pas pour que cela soit des sujets de glorification pour nous-mêmes, pour dire, voilà, j'ai pu faire ceci, j'ai réussi à faire ceci. Mais pour que le Seigneur lui-même se glorifie à travers ce qu'il réalise à travers nous. Et donc, lorsque nous ne sommes pas encore capables et prêts à voir et à comprendre que tout ce que le Seigneur peut nous rendre capables de faire ou d'obtenir, c'est seulement pour que la gloire lui soit rendue, alors il peut permettre que cela ne nous arrive pas encore. Quand le Seigneur nous rend capables de faire ceci ou cela, de construire, d'acheter voiture, de faire des voyages, ce n'est pas pour que nous commencions à nous glorifier de ça. Ce n'est pas pour que nous puissions les raconter partout comme si c'était de nos propres efforts. Il faudrait qu'à un moment, nous soyons humbles et reconnaître que c'est Dieu qui a voulu nous amener jusqu'à cela, jusqu'à accéder à ceci ou cela, pour que lui-même soit encore glorifié. Il ne faudrait pas que, au moment où vous êtes capable de construire, que vous commenciez à voir les autres comme s'ils ne réfléchissent pas. Il y a des gens, ils peuvent arriver chez vous, ils vous traumatisent. Je dis, mais comment vous pouvez vivre dans une maison comme ça? Comment vous faites? C'est difficile. C'est inimaginable. Mais il oublie. Il oublie là où il était. Il oublie d'où le Seigneur l'a tiré. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont porté pour la première fois leurs souliers quand ils sont entrés à l'école secondaire? Pour la première fois. Il y en a. Mais au moment où le Seigneur l'a propulsé, il commence à avoir comme six. Donc que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous soyons capables de voir d'où il nous a tirés, d'où il vient de nous amener, afin que nous soyons capables de lui rendre grâce continuellement. Amen. Nous pourrions tirer beaucoup de leçons de ces passages que nous avons lus, mais permettez que nous puissions directement aller au verset 33. La parole de Dieu déclare que ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Alléluia. C'est une confession de reconnaissance, une action de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, toute la fois que Dieu aura apaisé des tempêtes dans nos vies, soyons reconnaissants. Revenons lui rendre grâce. Le secret des actions de grâce, c'est qu'elles suscitent encore le Seigneur à nous donner une autre raison de revenir lui rendre grâce. Vous comprenez ça? Quand vous rendez grâce, c'est un peu ce qu'on nous a dit souvent en Swahili, et que merci Ilimalizaka. Voilà. Quand vous dites merci à Dieu, il vous donne encore une autre raison de venir dire merci. Et donc, c'est important dans notre vie d'apprendre et de savoir chaque jour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie et pour tout ce qu'il va faire. Parce que nous marchons par la foi. C'est-à-dire que lorsque nous demandons à Dieu quelque chose, soyons capables de commencer à le remercier pour la chose. Amen. Commencez à dire merci à Dieu pour la paix. Commencez à dire merci à Dieu pour l'amour, pour vos familles, pour vos études, pour votre travail, même si vous ne l'avez pas encore. C'est ça la foi. Et c'est bien ce que nous manquons malheureusement. Nous le manquons souvent. Nous pouvons demander, nous nous lamentons, nous nous plaignons. Mais jamais nous ne remercions le Seigneur. Le Seigneur veut nous appeler ce matin à chaque fois encore lui rendre grâce, à nous souvenir de tout ce qu'il a déjà fait. Si nous sommes capable de compter les bienfaits de Dieu, cela va nous amener à ne plus voir ce qui est comme blocage, comme un blocage. Mais ça sera aussi une occasion pour nous de reconnaître que Dieu veut nous donner une opportunité d'être témoin de la manière dont il sauve son peuple. Amen. Si nous considérons ce qui semble noir, cette situation difficile dans notre vie, comme une opportunité que Dieu nous donne d'être témoin de sa puissance, voilà, là nous allons être capables de lui dire, Seigneur, merci parce que tu viens aussi de permettre que ceci arrive. Parce que la Bible déclare qu'il est fidèle. Il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et quand la tentation nous arrive, il prépare déjà un moyen pour que nous puissions nous en sortir. Mais ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que toutes les fois que quelque chose ne marchera pas, si vous avez Dieu, si vous êtes en alliance avec Dieu, déjà vous savez que non, si ceci arrive, c'est-à-dire que c'est taillé à ma mesure. C'est-à-dire que le Seigneur sait que je suis capable de vaincre ça. Alors, usipati chez Munguhai, il faut une piga situation chini na Mungu aone kweli que unamutumainia. Amen. Ce sont des occasions que le Seigneur nous donne d'être témoins de la manière dont il délivre. Et donc, si tu lui fais confiance, si tu renouvelles ta foi en lui, tu seras témoin de sa bonté, tu seras témoin de la faveur de Dieu, tu seras témoin de la grâce de Dieu dans ta vie, tu seras témoin de toutes les merveilles que le Seigneur aura réalisées dans ta vie. Tu verras comment le Seigneur sait rétablir les personnes qui ont été rejetées. Tu verras comment le Seigneur, il élève les personnes qui ont été marginalisées, qui ont été écrasées. Tu verras comment le Seigneur, il dresse une table devant tes ennemis. Ces choses-là que tu as entendu parler, ces choses-là qu'on t'a racontées, enfin, tu les verras par tes propres yeux. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois cette parole, que cela te soit fait selon ta volonté. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien.